commençons donc par ce qui se passe dans cette Russie où les bolcheviks ont conquis le pouvoir contre la volonté de la majorité de la dirigeant. Et comme épouvanté par ce qu'ils ont fait, à la fois surpris par la facilité et craignant ses conséquences, les bolcheviks, dans leur majorité, veulent se replier sur un gouvernement de coalition, c'est-à-dire sur le gouvernement avec ceux qui sont dépossédés de leur pouvoir. Il était contre. Il était en minorité, ça lui arrive souvent. Et il a été obligé d'accepter qu'une expérience soit faite. De sorte que presque aussitôt après la conquête du pouvoir, après la création d'un gouvernement purement bolchevique, par nécessité, puisque personne d'autre ne voulait y participer, les négociations s'engagent avec les mincheviks, c'est-à-dire les représentants de la minorité du Parti social-démocrate, et avec les socialistes révolutionnaires de gauche, représentant la masse de la paysannerie russe, pour créer un gouvernement de coalition. La négociation échoue, et elle n'échoue pas du fait des bolcheviks, parce que ces gens qui avaient été écartés du pouvoir après avoir, pendant 8 ou 9 mois, nagé lamentablement au sein d'une coalition avec la bourgeoisie libérale, ont posé de modestes conditions à leur participation au gouvernement révolutionnaire, à savoir l'évanouissement du pouvoir de Lénine et de Trotsky. Il acceptait les autres. Il est toléré. Comprenez-vous-même que dans les conditions de l'euphorie d'un parti victorieux qui venait de conquérir le pouvoir, l'exigence de ses alliés éventuels demandant que les auteurs de la révolution, le véritable maître du pouvoir en soit écarté, ne pouvait pas être accepté, et c'est pourquoi ces négociations ont échoué. Et aussitôt commence une nouvelle négociation avec le socialiste révolutionnaire de gauche, parce que autant Lénine était contre les concessions inadmissibles, autant il considérait que l'élargissement de ce gouvernement révolutionnaire, et surtout son élargissement aux représentants de la paysannerie, est indispensable. Et c'est pourquoi, quand très souvent on affirme que la conquête du pouvoir par les bolcheviks a abouti de leur volonté délibérée à l'établissement d'un gouvernement composé des bolcheviks, c'est totalement inexact parce que, au contraire, dès le début, sous des formes plus ou moins valable, le désir du parti bolchevique était d'élargir la base politique et sociale de ce nouveau pouvoir à la seule condition que les nouvelles formes de la démocratie, c'est-à-dire de la démocratie conseilliste, la démocratie des soviets, soient acceptées par leurs partenaires. Dès que le socialiste révolutionnaire de gauche avait accepté cette nouvelle forme de démocratie, ils sont entrés en force au gouvernement. Et ils auraient pu y rester pendant très longtemps si un nouvel avatar ne les avait amenés eux-mêmes à la rupture, eux-mêmes à une action insurrectionnelle armée bolchevique du gouvernement. Et c'était peut-être sa grandeur. Ce que ce gouvernement, en arrivant au pouvoir, a réalisé ce qu'il a promis. C'est probablement le cas unique dans l'histoire écrite de l'humanité. Les bolcheviques ont dit qu'ils veulent faire la paix immédiate. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait très mal, parce que devant la décomposition totale de l'armée tsariste, ils ne pouvaient pas s'opposer à l'avance allemande, et c'est pourquoi, après quelques tergiversations de la part de Trotsky, ils avaient été obligés, ils avaient été amenés à capituler. En race campagne, c'est-à-dire accepter les conditions imposées par l'état-major allemand. Et c'est là où intervient une curieuse formule de Lénine, classique, et non reprise par les autres. Il a dit, il nous faut gagner du temps. Le temps est le facteur décisif pour nous. Pour gagner du temps, nous allons perdre du terrain. Nous le reprendrons plus tard. Tout le monde n'était pas d'accord. Non seulement les socialistes révolutionnaires, mais même de très nombreux bolcheviques, notamment Boukharine, vous avez peut-être entendu parler. De sorte que cette coalition a, pendant un moment, menacé l'existence même de cette république, jeune république de Soviet. Les socialistes révolutionnaires qui voulaient à tout prix rompre l'accord signé se sont même arrangés pour assassiner l'ambassadeur allemand à Moscou, ce qui a naturellement provoqué un certain remous. Débat, résistance, dénonciation violente à l'intérieur du parti, à l'extérieur, y compris au front. Et c'est à ce moment-là que Lénine emploie cette formule qui, pour un temps, était devenue célèbre, même sous le feu de l'ennemi. Nous discuterons, nous, les bolcheviques. Et ce n'était pas une image, parce qu'ils étaient vraiment sous le feu de l'ennemi. Ils ont discuté sous le feu de l'ennemi. Après signé, les Allemands occupent un territoire extraordinairement grand, y compris les greniers de blé qu'est l'Ukraine. Et au fur et à mesure qu'il avance, le virus bolchevique pénètre dans la bonne, solide et bien disciplinée l'armée impériale. Et immédiate, terre aux paysans. Tout le monde était pour la réforme agraire, mais chacun interprétait cette réforme d'une manière un peu différente, et surtout, tout le monde disait oui, la réforme agraire à coup sûr, mais dans la règle, dans le respect de la loi. Il faut d'abord élire une constituante, il faut d'abord voter une constitution. Après, quand la constitution sera votée, il faudra élire un parlement, et ce parlement décidera une réforme agraire. Les bolcheviques ont répondu d'une manière un peu brutale. Et ils ont dit aux paysans, mais vous n'avez rien à attendre, vous n'avez besoin d'aucune loi. Prenez le terre. Et tout de suite, ils ont dit, nous donnerons la terre aux paysans. Et ils l'ont donné. Mais naturellement, ça ne s'est pas fait dans le respect de règles. Beaucoup de paysans sous l'uniforme avec leurs flingues sont rentrés chez eux pour surveiller le partage des terres. Et dans les villages les plus éloignés, les plus rétrogrades, ces paysans sous l'uniforme, ces paysans armés, pour la première fois, apportés dans ce monde isolé, la nouvelle qu'il y a un gouvernement qui tient ses promesses, ses engagements. C'est un gouvernement des pauvres. C'est un gouvernement qui défend les intérêts des travailleurs. Ça peut vous surprendre. Ça fait un gros effet. Les droits à l'autodétermination des peuples opprimés. La Russie tsariste était une prison de peuples. Des dizaines de peuples avaient été conquis, opprimés, dominés, crucifiés avec une extrême brutalité. Les bolcheviks se sont prononcés pour les droits à l'autodétermination de tous les peuples conquis par les tsars, pouvant aller jusqu'à y compris l'indépendance nationale et la constitution des États nationaux indépendants. A été considéré en effet par beaucoup de gens, y compris par beaucoup de Russes, y compris par beaucoup de bolcheviks, y compris par beaucoup de bolcheviks non russes, comme par exemple Staline, comme une incongruité et même comme une trahison. Mais malgré cela, cette trahison a permis bolcheviques de conquérir une immense popularité parmi les peuples qui n'avaient rien de commun avec eux sur le plan des programmes sociaux, mais qui ne l'ont jamais oublié, que ce sont les bolcheviques qui leur ont permis de conquérir, non pas de conquérir, d'accéder à l'indépendance nationale. Et enfin, les bolcheviks ont dit tous les pouvoirs aux soviets. Et bien que ça paraisse peu probable, maintenant, à distance des temps donnés, ils l'ont vraiment donné aux soviets. Je vais vous raconter un petit épisode. Au moment de la constitution de l'armée rouge, l'armée, la garde rouge, on a commencé à mobiliser les gens. Et dans un grand village, à 60 km de Moscou, le soviet de ce village a dit non. Nous ne contribuons pas à la formation de l'armée rouge, ça ne nous intéresse pas. Nous ne donnons pas nos gens. Et puisqu'il y avait des réquisitions et il fallait donner du blé, ils ont dit non, nous ne donnons pas de blé pour d'autres, nous le gardons pour nous. Gros village, 6000 habitants. Un soviet est allé voir Lénine, on lui a dit, Vladimir Ilitch, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Vous savez qu'il y a un village qui ne joue pas le jeu. Est-ce qu'on ne pourrait pas envoyer là-bas un petit détachement de l'armée rouge pour leur faire comprendre qu'il y a une solidarité obligatoire, hein, à coup de mitrailleuse éventuellement, dans toute fraternité prolétarienne. Enfin, laisse-les réfléchir. Il y a repris même une formule amusante et célèbre, même pas très célèbre, d'Engels, qui, il y a bien longtemps, a dit qu'il faut laisser réfléchir le paysan sur son lopin de terre et non pas les sortir vers les exploitations collectives à coups de pied quelque part. Mais Lénine a dit la même chose. Et ces paysans ont tenu admirablement le coup jusqu'au moment où l'armée blanche de Denikine a commencé à leur chauffer les fesses, à s'approcher. Et en s'approchant, laissant derrière elle le trace de sang, en collant au mur à peu près tous les gens qui sont mouillés dans le partage des terres, et leurs voisins, et leurs amis, et leurs maîtresses, et leurs enfants. Et c'est à ce moment-là que ce gros village, en son immense majorité, s'est rallié à l'armée rouge et a envoyé ses volontaires se battre. Ils ont réfléchi sur leur lopin de terre. Tout le pouvoir aux soviets. C'était pas un slogan formel. C'était vraiment, à l'époque, la réalité et une nouvelle réalité. Le premier pas de cette révolution victorieuse était d'une gentillesse désarmante. Les ministres du gouvernement provisoire qui avaient été arrêtés au palais d'hiver ont été retenus par les marins en armes pendant toute une nuit. Vous vous rendez compte? Le lendemain matin, on leur a dit, ça suffit, allez-vous-en, rentrez chez vous. C'est comme ça qu'a commencé la répression des bolcheviks après la conquête du pouvoir. Et c'est seulement à la suite de la formation des armées blanches alimentées par les puissances impérialistes étrangères, les Britanniques au nord, les Français dans les Midi, les Allemands à l'ouest, les Japonais dans l'extrême Orient, que la terreur blanche s'est déchaînée, entraînant des milliers d'abord, des millions ensuite de victimes. De sorte que la terreur rouge est une contre-terreur à ses origines, est une réplique, est un moyen de défense. Je voulais le dire parce que, comme l'influence de Solzhenitsyn est très grande, son rayonnement, son talent, pour ne pas dire son génie, une certaine optique déformante a été appliquée et adoptée par pas mal de gens, et je crois qu'il n'est pas mauvais de faire là-dessus une certaine mise au point. Révolution victorieuse de l'intervention étrangère, victorieuse des armées blanches, victorieuse mais isolée. La solidarité internationale, la révolte par exemple des marins français dans la mer Noire, le refus des dockers britanniques et américains d'embarquer les armes pour les armées contre-révolutionnaires, pour les armées blanches en Russie, ont permis de sauver la révolution. ces énergies révolutionnaires qui ont joué et aidé, peut-être d'une manière décisive, à sauver la révolution russe, n'ont pas été suffisantes pour surmonter tous les obstacles, toutes les difficultés, toutes les incompréhensions, toutes les traditions qui freinaient l'élan révolutionnaire dans les pays occidentaux. Et c'est pourquoi la victoire de la révolution dans un pays isolé, arriéré et ruiné, et son échec partout ailleurs, a créé une situation historiquement originale, une situation nouvelle, situation de coexistence entre des types de régimes sociaux, entre deux structures étatiques, entre deux conceptions de société. Comment cette coexistence dans l'espace, dans le temps, pouvait se faire? Dans quelle durée? Avec quelle perspective? Croire que de deux côtés, dès le début, on a accepté, on a admis cette coexistence, c'est une grave erreur. De deux côtés, on a dit non. Du côté des puissances impérialistes, on a tout fait pour isoler, pour affamer, pour écraser la révolution russe victorieuse. Avec les armes, avec l'argent, avec la propagande, avec les diversions de toutes sortes. Mais c'est normal. Clemenceau, dont vous avez probablement entendu parler, a proposé et a établi un cordon sanitaire autour de cette révolution russe. Mais le refus de la coexistence venait aussi de l'autre côté, de l'autre camp, de notre camp. Cette révolution victorieuse, ce premier pays dirigé par un parti ouvrier révolutionnaire, n'était pas un but en soi. Il n'était pas considéré comme tel. Dans une énonciation surprenante, par son courage, par sa clairvoyance, Lénine dit: nous n'hésiterons pas à engager notre propre existence pour venir au secours d'une révolution dans un autre pays. Donc, une place forte d'une nouvelle armée internationale. Donc, un lieu de rassemblement, de mobilisation, d'où sortiront les attaques contre l'ennemi environnant. Une forteresse assiégée, cherchant des alliés à l'extérieur, les mobilisant, les appelant à la lutte, leur donnant à la fois l'exemple et les armes. Quelle arme, quel exemple? L'exemple d'abord de tenir dans une situation désespérée. Dans une situation de misère indescriptible. Les armes. Pas seulement des armes matérielles, des idées. Il faut projeter vers l'extérieur. Il faut faire comprendre. Il faut faire admettre aux soldats, Шпельману. Aux femmes qui n'étaient pas capables de nourrir leurs enfants. Qu'il y a une autre perspective, une autre possibilité, une ouverture sur un autre avenir. Et que cet autre avenir, ce n'est pas par le vote, par le bulletin de vote, par le respect de la légalité, par l'acceptation de l'existant, mais par le refus global de cette société que cet autre avenir pourrait être conquis. C'était nouveau. C'était différent. Dès 1914, 1er novembre 1914, je vous ai dit ça, une date célèbre. Lénine écrit, la deuxième internationale est morte, tuée par l'opportunisme, vive la troisième internationale débarrassée de l'opportunisme. Bien entendu, cela reste sans écho de petit canard russe publié à Zurich. Lu par 150 immigrés, ça n'a pas fait boum. Revenu en Russie, le 4 avril 1917, Lénine, il avait beaucoup de suite dans les idées. A relancé la même idée, il faut une nouvelle internationale. Mais il n'est pas suivi par la majorité de son parti. Le parti du non. Le parti participe, décide de participer à une rencontre de Stockholm où était envisagée la possibilité de reconstruire une internationale plus large avec des pacifistes, avec des gens qui n'ont pas été directement compromis dans la sanglante aventure de la guerre impérialiste. Isolé, il continue cette lutte personnelle pour cette idée qu'il faut une nouvelle internationale, qu'il y a là un tournant. Et finalement, dans cette forteresse assiégée et affamée, il parvient après maintes péripéties que je ne peux pas vous raconter, à obtenir l'accord de son propre parti. Et voici que le 2 mars 1919 s'est réunie à Moscou une conférence internationale en vue de la création d'une nouvelle internationale. On ne l'a pas encore numérotée. C'est seulement après qu'elle est devenue la troisième, elle était sans numéro. Cette conférence, ça ne devait pas être congrès de fondation, ça devait être une prise de contact. Petite conférence, peu nombreuse et peu représentative. En réalité, en dehors des partis socialistes de l'ancien empire russe, le polonais, le letton, les estoniens, les arméniens, les finlandais, et en dehors des représentants, pas tout à fait représentatifs des socialistes balkaniques, tous les autres participant à cette conférence y étaient à titre personnel, le plus souvent c'était les prisonniers de guerre convertis au bolchevisme dans le fait de la guerre civile. Un seul parti était représenté. Le parti communiste allemand. Il venait d'être fondé à fin du mois de décembre 1918. Et 15 jours après, dans une tentative d'insurrection mal préparée, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, les fondateurs et les dirigeants du parti, ont été assassinés. Mais avant d'être assassinés, ils avaient donné à leurs représentants envoyés à Moscou à travers le front, il s'appelait Eberlein, le directif très ferme. Pas de nouvelles internationales pour le moment. Discussion, préparation, oui, nouvelle internationale, non, ou alors une internationale plus large que celle envisagée par Lénine. Et voilà que le débat s'engage et tout le monde arrive à cette rencontre, à cette conférence avec l'idée que nous sommes ici pour ouvrir au moins la perspective d'une nouvelle internationale épurée des gens qui se sont compromis dans l'union sacrée, dans la guerre, dans la tendance purement pacifique de retour au régime capitaliste et à une sorte d'amnistie réciproque permettant de reconstruire l'ancienne internationale. Nous sommes contre. Nous sommes venus ici pour nous démarquer en arrière, pour nous démarquer de ce qui s'est passé avant, de cette sanglante aventure. Et voici qu'au cours des débats, Lénine prépare et présente très tranquillement un document qui fera l'époque. Il présente les thèses sur la démocratie bourgeoise et la dictature du prolétariat. Lénine montre que quels que soient les aspects formels, en régime capitaliste, c'est la bourgeoisie en tant que classe qui domine la société. Et que pour lui arracher le pouvoir par les voies légales, il n'y a à peu près, sauf des cas tout à fait exceptionnels, aucune possibilité et aucune chance. Il faut donc conquérir ce pouvoir, et même une fois ce pouvoir conquis, il faut le maintenir, il faut le garder, parce que même après la conquête du pouvoir par les prolétariats, la bourgeoisie est plus puissante que les nouveaux maîtres du pouvoir, par les habitudes, par la culture, par ses liaisons, par ses attaches. Donc il faut établir une dictature, et Marx à plusieurs reprises, dans ses écrits théoriques, en a parlé. Et cette formule a été volontairement ignorée ou abandonnée ou reniée par les dirigeants de la Deuxième Internationale. Et il la reprend. Et voici que, en plein congrès, les gens sont totalement éblouis parce qu'il leur propose un autre clivage. Un clivage en avant et non pas en arrière. Non pas entre ceux qui ont fait ou n'ont pas fait quelque chose, mais entre ceux qu'il faut faire. La rupture. rupture, ce n'est pas seulement la rupture avec les social-patriotes et social-pacifistes, c'est la rupture entre les partisans de la démocratie bourgeoise croyant à la possibilité de la transformer par voie légale, par démarche et réforme graduelle, par les transformations successives en socialisme. Il y a là une rupture, un bond, une inévitable violence, et à l'issue de cette rupture, un autre type de société, une autre forme de démocratie, celle des travailleurs, infiniment plus vaste dans sa conception, sinon dans son application, devait surgir de cette rupture, de cette transformation. Premier congrès, petit congrès, et il a fallu vraiment faire du forcing pour que les délégués, qui pour la plupart ne représentaient rien, sauf leur bonne volonté, consentent à se déclarer fondateur de cette nouvelle internationale qu'on a numérotée. Troisième. Et de la fonder. Et d'adopter les thèses. Et de lancer à travers le monde un manifeste qui est un des chefs-d'œuvre de littérature internationale. Il a été rédigé par Trotsky. Le seul représentant d'un parti ouvrier révolutionnaire occidental, Eberlein, a eu l'ordre de voter contre. Il s'est abstenu et au dernier moment, parce qu'on lui a dit qu'il faut tout de même arriver à une sorte d'unanimité, il a eu une excellente idée de s'absenter au moment du vote définitif. Et c'est comme ça qu'a été voté, dans le remous et le doute, dans la non-représentativité de tous ceux qu'il y avait de représentatifs dans le mouvement ouvrier révolutionnaire qu'a été fondé l'International communiste. Et puis, le remous révolutionnaire s'aggravant, la révolte contre les anciennes directions devenant de plus en plus violente, les courants en faveur de cette nouvelle internationale se déclenchent, se développent, s'élargissent. Et le deuxième congrès, qui se tient en 1920, en juillet, c'est un congrès où les gens les plus surprenants frappent à la porte. Et pour éviter que tous ces dirigeants compromis, tous ces états-majors engagés dans la guerre, tous ces députés, tous ces ministres, tous ces conseillers généraux, municipaux, maires, etc., n'envahissent cette nouvelle internationale et ne lui imposent un style dévié d'action que nous avons bien connu. L'internationale dresse un barrage, établit 21 conditions bien célèbres et peu efficaces pour empêcher d'être envahi par les opportunistes et par les réformistes. Deux types de conditions. Les conditions immédiates, épuration des groupes parlementaires, des comités centraux, élimination des gens qui pendant la guerre avait des attitudes de collaboration des classes ou des attitudes douteuses. C'était pour ainsi dire des conditions peut-être les plus choquantes et les moins efficaces. Mais il y avait d'autres types de conditions infiniment plus dangereuses pour les gens qui voulaient se faufiler à l'intérieur de cette nouvelle internationale. C'est le changement de structure de cette organisation. C'est l'obligation de travailler dans l'armée. Une attitude antimilitariste conséquente, non seulement dans la propagande parmi les civils, mais chose plus choquante, même dans l'armée. Haute prescription obligatoire, lutte effective pour l'indépendance des colonies et des peuples conquis, lutte devant aller jusqu'à l'organisation de la résistance dans l'armée coloniale et jusqu'à la fraternisation avec les rebelles. C'est la création d'organismes clandestins devant échapper à l'investigation de la police. Bien entendu, de telles conditions étaient jugées inadmissibles, inacceptables par un nombre considérable d'élus, de députés, de dirigeants ouvriers et qui avaient les pieds au chaud depuis une génération et qui se considéraient comme à la fois parfaitement intégrés et parfaitement bien placés comme opposants à l'intérieur du régime capitaliste. Mais la rupture, malgré tous ces barrages de papier, n'a pas eu lieu de la manière dont on aurait voulu qu'elle se fasse. Cela veut dire qu'elle est souvent le plus honnête parmi les hésitants, le plus disposé à suivre la voie révolutionnaire, l'avait refusé par solidarité, par attachement à la vieille organisation. Et au contraire, d'autres qui avaient moins de scrupules et plus intérêt à s'accrocher à un mouvement de masse l'avait accepté. Il s'est engagé sous ce plan-là, non seulement en France, mais aussi en Allemagne, en Italie, en Norvège. Tout un processus de différenciation, de clivage. Malheureusement, ce clivage, ces différenciations, encore une fois, ne s'est pas faite aussi bien que l'ont voulu les dirigeants de l'intérieur.